France. De la politique dans ce journal du côté de l'Assemblée nationale. On parlera de foot, oui, mais de foot professionnel. On ira aussi voir les baleines. Et puis on finira en se mettant l'eau à la bouche avec un potentiel meilleur apprenti de France. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
On part à Paris pour commencer, où on reparle des compétences des communes polynésiennes.
Et oui, les auditions sur la modification de la loi organique pour élargir les compétences de ces communes ont commencé il y a deux jours à l'Assemblée nationale. Elles se concentrent sur la légitimité du texte, c'est-à-dire sa réponse à un réel besoin exprimé par les acteurs de terrain, ainsi que sur sa sécurité juridique. Ont notamment été entendus les sénateurs Tevaro Fritsch et Lana Tetuanui, auteurs du texte, et les membres du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie qui ont fait le déplacement. Cyril Tetuanui, fraîchement condamné, Simplicio Lissan, Joseph Kaya et Willingson Rafaoré sont sur place. Aujourd'hui, c'est la direction générale des Outre-mer qui a pris leur place. Mais pour l'instant, pas de membre du gouvernement central, toujours pas nommé, pas non plus de président de l'Assemblée de Polynésie, ni de président du pays qui n'ont pas répondu à l'invitation du Palais Bourbon. C'est ce qu'explique Nicole Sanquer, rapporteur du texte.
Malheureusement, on ne pourra pas auditionner le gouvernement et surtout aussi, nous n'avons pas eu de réponse de la part du président du pays. C'est trois semaines que l'administratrice de l'Assemblée nationale tente d'avoir des réponses du cabinet du président. Et monsieur le président de l'Assemblée n'a pas pu caler un rendez-vous faute de créneau.
Voilà, c'est d'autant plus regrettable, dit la députée, que Moete Brotherson n'a pas caché son opposition au texte et l'Assemblée de Polynésie a émis un avis défavorable sur ce projet de loi. Mais les auditions pourront se poursuivre, d'autant que le calendrier parlementaire a changé et la session extraordinaire qui était prévue, selon toute vraisemblance, a été annulée. Écoutez.
N'ayant pas de gouvernement, la session extraordinaire est suspendue, voire sans doute annulée, puisque nous reprenons la session budgétaire le 1er octobre. Mais par contre, nous souhaitons évidemment obtenir l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. Et pour nous, ces auditions peuvent continuer jusqu'à la commission des lois.
Voilà, Nicole Sanquer qui rentre à Tahiti demain pour l'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée de la Polynésie française.
L'actualité, c'est aussi le sport, mais pas côté résultat.
Et non, côté grand projet et sport professionnel. Ça n'existe quasiment pas en Polynésie, si ce n'est quelques aventures personnelles en surf ou en sport de combat, souvent bien loin du Fénoua. Mais des terrains de foot, c'est sur les terrains de foot que pourrait venir la révolution. Et cette révolution, elle tient en un nom, Tahiti United. On vous en a déjà parlé plusieurs fois de ce projet d'équipe monté toute pièce par l'AS Venus pour intégrer la première saison de l'OFC Pro League qui sera lancée en janvier prochain. Après un très long travail et des centaines de pages de dossiers de candidature, le club a bien été sélectionné avec cette autre équipe de la région et s'apprête donc à devenir le premier club professionnel du Fénois en foot ou ailleurs. Samuel Garcia, son cofondateur, était sur notre plateau hier. Il a rappelé les objectifs qu'il s'était fixés avec son équipe. Ouvrir la porte de la professionnalisation en travaillant les textes avec les autorités et surtout offrir des perspectives aux jeunes sportifs. Écoutez.
On a pensé à nos footballeurs, nos jeunes footballeurs qui rêvent de devenir un Pascal Vairua ou un Marama Vairua. On sait qu'aujourd'hui l'écart, il est devenu plus grand entre nous et la métropole. Alors pourquoi pas les faire rêver et qu'ils deviennent professionnels dans leur pays pour déjà passer un palier pour ensuite aller se mesurer à l'international. Et c'est vraiment ça qui nous a menés. Ça fait 30 ans qu'on forme des jeunes. On voit que nos enfants, les parents les emmènent en métropole. Souvent, ça revient d'un échec. Qu'on puisse lui donner une structure pour qu'il s'épanouisse et jouer pour son pays.
Voilà, rien n'est fait puisqu'avant de signer des joueurs, une vingtaine a priori, il faudra s'assurer que les contrats forcément très spéciaux pour ce genre d'activité collent à la réglementation. Pas de somme avancée pour ce qui est des salaires. Le coach dit seulement que Tahiti United s'assurera que les joueurs qui ne passeront que très peu de temps à la maison, déplacement oblige, pendant les 5 mois de la saison, seront mieux payés que dans leur emploi précédent. Des discussions sont d'ailleurs en cours pour que ceux qui bénéficient d'un CDI ne mettent pas en danger leur famille dans cette aventure du foot pro. Samuel Garcia veut aussi rassurer les clubs du Fénois pour trouver un moyen de garder un lien avec leurs joueurs devenus pros.
On aimerait que ça se passe comme ça. On ne veut pas que Tahiti United, ça brise les clubs, parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Mais on aimerait, mais ça au niveau statutaire, à la Fédération Tahitienne de Football, ils doivent continuer à bosser sur les statuts. Mais à partir du moment où un joueur jouera pour Tahiti United, il sera professionnel. Il sera licencié en Nouvelle-Zélande sur un logiciel qu'on appelle Comet. Un joueur de Tefana ou un joueur de Taiarapu ou un joueur de Pouéou, il vient jouer pour Tahiti United. Si son contrat se termine, qu'il soit reversé automatiquement dans son club d'origine, c'est une possibilité.
Voilà, car Tahiti United a beau être porté par l'AS Venus, les joueurs doivent venir de tous les clubs du pays en fonction des talents, des envies, des ambitions de chacun, bien entendu. Le mercato n'a pas commencé, il s'ouvrira officiellement le 21 octobre. D'ici là, il reste encore des dossiers administratifs à compléter, beaucoup des dossiers administratifs et surtout financiers, car l'argent reste le nerf de la guerre. L'OFC et la FIFA prennent déjà en charge toute l'organisation, les vols, les hébergements, la location des stades. Reste tout de même à payer les joueurs et les coachs, une trentaine de personnes au total et environ 200 millions de budget à trouver, en partie auprès des autorités du pays qui comptent soutenir l'initiative, auprès aussi de soutiens et de sponsors locaux qui attendent une loi d'incitation fiscale pour signer. Mais Tahiti United a aussi déjà un équipementier.
Ça c'est pas fait qu'Under Armour, j'ai rien à cacher, on est chez Adidas, donc on est très content. Faut pas croire que c'est tombé comme ça, hein. 9 mois qu'on dort pas aussi, donc on a bousculé toutes nos relations pour pouvoir essayer, et on a encore du chemin à faire. Je veux pas aussi m'avancer et te dire que tout est beau, tout est fini, tout est réglé. On a qu'une chose, c'est d'être le 10 janvier alors au Smart Stadium ou peu importe où ça sera à l'ouverture. Voilà, c'est ça qui nous intéresse.
Voilà, le 10 janvier au Smart Stadium d'Auckland pour le premier match de la saison de Pro League. Et puis avant ça, il y a le lancement officiel de cette nouvelle compétition soutenue par la FIFA. Ce sera fin octobre, là aussi en Nouvelle-Zélande. On suivra bien sûr Tahiti United dans son aventure sur Radio 1 et sur Thierry FM.
Et puis côté mer, ça se bouscule dans les lagons.
Oui, avec beaucoup de bateaux et beaucoup de baleines à bosse, notamment des mers qui viennent mettre bas et qui s'abritent près des côtes avec leur nouveau-né. Un pic de la saison des observations, mais surtout un moment de vulnérabilité pour les cétacés. On écoute tout de suite Agnès Benet, la directrice de Matatora.
Là, actuellement, on est en plein boom de naissance. Et donc, les mamans se rapprochent très, très près des récifs et entrent dans les baies, dans les passes. On reçoit des appels d'un peu partout, de Bora, de Taha, de Rayatea. Il y a également aussi une baleine avec son tout jeune baleineau à Papara, dans le lagon. Donc, en fait, elles sont vraiment dans des endroits très, très proches des terres pour se mettre à l'abri des prédateurs et se reposer.
Voilà, de se mettre à l'abri dans des zones de nurserie où l'association appelle à la plus grande vigilance des plaisanciers, d'autant que les baleines au repos sont immobiles, respirent très peu, sont très peu visibles, donc ce qui renforce le risque de collision. Seule solution, réduire sa vitesse et puis aussi respecter les règles d'approche, pas moins de 300 mètres pour les particuliers, pas de mise à l'eau, des règles qui sont très fréquemment violées par des curieux. D'après Matatora, Agnès Bonnet veut faire comprendre les enjeux.
Si on les dérange, nous ce que l'on a vu une année, c'est que le baleineau a essayé d'esquiver des bateaux et il a fini sur les coraux. Ensuite, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il essaie de fuir les bateaux et il va se bloquer dans les patates de corail. Il peut se blesser, il peut se perdre, il peut aussi se séparer de sa maman. Tous les ans, on voit des baleineaux sans leur maman, donc pour plusieurs raisons. Ça peut être aussi une agression par un mâle ou par un prédateur naturel. Hein. Mais essayons-nous, à notre niveau déjà, de faire attention à ne pas rajouter une pression supplémentaire.
Voilà, un appel à la responsabilité de la directrice de l'association Matatora.
Et pour ceux qui ont faim, on clôt ce journal en parlant de cuisine.
Et oui, notre gagnant de la finale régionale du concours d'un des meilleurs apprentis de France 2025, Chad Taopotini, dont vous avez déjà parlé, part demain pour la finale nationale à Paris. L'élève de l'école hôtelière de Tahiti a décroché une médaille d'or dans la catégorie cuisine froide en avril avec un plat réalisé autour du parapewe, suivi d'un dessert au chocolat. Ils étaient 5 jeunes talents venus de Tahiti, Rayatea et Bora, et chacun ont été lauréats, mais seulement un seul a atteint la note minimale de 16 sur 20 pour passer en finale. Chad Taopotini s'est préparé depuis longtemps. On l'écoute au micro de Nani Laroche.
Là, les derniers entraînements qu'on a fait, c'est parti sur une semaine complète. On a travaillé sur le plat et le dessert pour arriver dans le timing imposé, c'est-à-dire 5 heures. Pour le plat, on a une pintade effilée avec ces deux garnitures, donc une imposée et une au choix. Et pour le dessert, on a un diplomate, donc un pudding avec les fruits confits.
Ah, ça fait envie en tout cas, mais il faudra dans cette 71e édition du concours faire mieux que 19 autres concurrents venus de tous les territoires et départements de France. Et surtout, il faudra convaincre le jury qui devrait accueillir quelques grands noms de la cuisine. C'est ce qu'explique Frédéric Pasquale, le coach du candidat polynésien.
Oui, alors donc il a préparé 4 assiettes, c'est pour 4 personnes, donc 4 assiettes en dessert, dans le pudding, le diplomate, 4 assiettes pour le plat froid, donc la volaille. Il me semble qu'il y a comme jury Philippe Etchebest, qui sera présent.
Et Tchad Taopodini en finale donc du concours des meilleurs apprentis de France le vendredi 26 septembre. D'ici là, il aura l'occasion de s'entraîner au lycée Château des Coudrets à Étiole. C'est juste à côté de Paris. Voilà, un petit peu de géographie pour finir. Ça fait toujours du bien. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'info sur radio1.pf et puis à 16h avec le flash de la rédaction.
Merci beaucoup Charlie René pour ce journal. Maintenant, c'est la météo sur Radio.